ring, girl, make it.
Hey, what's up?
When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain. 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 What if it's just me? Mother Russia in my cup, and my glass is fogging up. Oh yeah, hey dog, hey, what's up?
Oh yeah, hey dog, hey, what's up?
When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family.
T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
Le Festival Orientaliste mettra Montréal à l'heure orientale du 2 au 5 août au quai de l'Horloge du Vieux-Port. Spectacle inédit, ateliers, dégustations, animations de foule et activités pour petits et grands seront offertes gratuitement dans la Médina orientale en plein cœur de Montréal. En famille ou entre amis, venez découvrir l'Orient aux mille et une couleurs. Pour plus d'informations, visitez festivalorientaliste.com.
Hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez choc.ca.
La vie est un grand, grand jeu.
Viens t'asseoir avec nous.
Et... Oh. Bonsoir, bonjour.
Allez, viens jouer.
Pourquoi est-ce que j'entends pas? Est-ce que j'entends? Est-ce que c'est moi qu'on entend? Mais oui, c'est moi qu'on entend. Excusez-moi, un peu plein délire. J'avais pas allumé mes écouteurs. Bien, bonjour. La vie est un grand jeu, votre rendez-vous bimensuel où on parle de droit et de jeux de société. Et cette semaine, ben, on va parler de droit de l'environnement parce que ben c'est l'été, puis l'été, c'est fait pour jouer. Hein, puis pas n'importe où, c'est fait pour jouer dehors. Alors, je me suis dit, pourquoi pas parler de l'environnement qui est au cœur de la vie extérieure. On va aussi parler du jeu Gaia, dans lequel on crée l'environnement, finalement. Hein? Rien de moins. Et hélas, aujourd'hui, Anne-Sophie n'est pas avec nous. Je sais, c'est très triste. Il y a des gens qui pleurent un peu partout. Le studio se sent tout seul comme ça. Je suis tout seul de mon côté. Et mais par contre, elle nous a gracieusement donné le résultat de quelques recherches. On va parler grâce à Anne-Sophie de l'écologie dans les jeux de société, hein, du côté écologique, de s'inquiéter de tout ça, de combien, comment jouer écologiquement, finalement. Et bien sûr, on va commencer quand même l'émission en solitaire, bien entendu, en écoutant la chanson « Solitaire ». Bonne écoute. C'était donc Jésus les filles avec la chanson « Solitaire » sur son album « Daniel » ou leur album en tant qu'artiste et groupe, bien entendu. Il l'a pas fait tout seul, même si il a travaillé fort. Donc, on parle du jeu Gaïa aujourd'hui. C'est un jeu québécois, d'ailleurs. Hein, pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, on parlait de jeu québécois. C'est la compagnie Tiki Édition qui édite le jeu. Le thème, donc, c'est le créer le monde et lui insuffler la vie. Wow! Je le sais. D'ailleurs, dans le jeu, ça consiste à créer un monde à l'aide de tuiles de terrain que l'on va jouer, que l'on va mettre des forêts, des montagnes, des déserts, des plaines, des océans. Et puis ensuite, on va pouvoir y placer des villes qui vont attirer, bien sûr, un peuple éventuellement. Hein? L'objectif du jeu, c'est de placer tous ces meeples, des pions de peuple. Et bien sûr, quand on a réussi l'objectif, ben on gagne. Hein? C'est simple comme ça. La mécanique du jeu est assez simple, soit dit en passant. Chaque tour, chaque joueur peut faire deux actions. En fait, on fait deux actions et il y a seulement deux options pour chacune des deux actions. On peut soit jouer une carte ou piger une carte. Et les cartes, ben, permettent de mettre en jeu des tuiles de terrain ou de cités ou des sources de nourriture dont je ne parlerai pas trop aujourd'hui parce qu'on, ça s'est rentré pas mal dans vous expliquer comment jouer le jeu puis vous êtes pas là, fait qu'on jouera pas aujourd'hui, mais je vais en parler un petit peu. On peut aussi jouer des pouvoirs si on joue avec les règles avancées qui auront une influence sur le monde, soit en transformant une tuile, en déplaçant des tuiles, pardon, en détruisant des villes ou même en causant une éruption volcanique. Pour pouvoir poser des cités en jeu, il faut respecter un prérequis pour la carte cité. Là, mettons qu'on a une carte cité en main, ben il va falloir remplir certains prérequis. C'est une sorte de terrain. Ne peut pas être sur n'importe quel terrain chaque ville. Il y a certaines villes qui peuvent être posées n'importe où, mais la plupart vont demander d'être soit sur une forêt, soit sur un désert, soit... Bon, vous avez compris. Et bien sûr, les océans ne peuvent pas accueillir de villes. Hein? C'est comme ça. Ensuite, chaque cité a quatre besoins potentiels qui permettront d'attirer un peuple. Quand on pose pour la première fois une cité, il faut absolument qu'il y ait au moins deux des besoins qui soient comblés. Donc, si deux des quatre besoins sont comblés par l'action d'un joueur, ben celui-ci peut y placer un pion peuple de sa couleur. Donc, c'est assez simple. Hein? Et ça prend même pas une action de placer un pion. Là, on met la ville, les deux besoins sont comblés, on place tout de suite un pion, tout le monde est content. Puis on comble des besoins, là, ça c'était peut-être pas clair, là. Comment on comble les besoins d'une ville? C'est en s'assurant que la ville est entourée de tuiles qui correspondent aux besoins de la ville. Là. Sur chacune des petites cartes, il y a quatre petites cases en bas qui correspondent à des terrains, à des peut-être de la nourriture des fois, hein, d'où la source de nourriture un peu plus haut. Et bien entendu, quand il y a deux de ces besoins qui sont comblés, alors on peut poser un pion et éventuellement on va pouvoir en poser plusieurs. C'est les terrains qui entourent la ville, pas celui qui est en dessous de la ville. Merci Paul de fermer la porte parce que c'est la folie à l'extérieur. Il y a même la possibilité de jouer avec des objectifs pour de poser des cartes ou de jouer certaines cartes. Et là, ça va donner la possibilité de placer un pion quand on réussit cet objectif-là. C'est des cartes qui sont jaunes d'ailleurs dans l'image, ceux qui sont en train de me regarder live, puis ceux qui sont peut-être allés chercher des images, hein, sur internet pour voir un peu de quoi je parle, hein. C'est pas pas une mauvaise idée, je pensais vous le suggérer d'ailleurs, là j'y pense en ce moment. Donc les cartes jaunes permettent de réaliser des objectifs, et il y a un gros avantage avec ça, c'est que les pions placés, ils restent là pour toujours. Ouais, c'est comme de l'argent en banque et ça sortira plus. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que on peut voler des villes à un autre joueur. Oui, mesdames et messieurs, c'est terrible comme ça. Et la façon de voler les villes, c'est que on va enlever des besoins comblés. C'est là que la stratégie là, va vraiment entrer en ligne de compte. Excusez-moi, j'ai deux textes différents pour me compliquer la vie. Excusez-moi. La stratégie, c'est justement de placer ces cartes pour prendre en compte ces besoins-là, puis le fait qu'on peut... selon qu'on joue avec des règles avancées, mais même quand on joue avec les règles de base, il va y avoir des petits changements si on vient influencer les besoins. Donc, on influence les besoins soit par les pouvoirs magiques, bien entendu, hein, il y a des pouvoirs magiques qui servent à changer un désert en marais ou un marais en plaine et inversement. Et en faisant ces petites influences-là sur le terrain ou encore en déplaçant des pouvoirs magiques qui peuvent déplacer des terrains, ben on vient influencer les besoins parce que les tuiles qui sont adjacentes à la ville vont changer. Et si on vient ajouter un besoin comblé à la ville, bon, soit en plaçant même une tuile, hein, parce que peut-être la ville a été placée puis les quatre côtés n'étaient pas comblés, ben, en plaçant une nouvelle tuile, on vient ajouter un besoin comblé et ça veut dire qu'on peut mettre un pion sur la ville ou même enlever le pion de l'autre pour mettre le nôtre. Par exemple, si une ville est entourée de deux tuiles qui correspondent à ses besoins, puis moi, comme je disais, je veux venir placer une troisième tuile qui comblerait un troisième besoin, ben je vais remplacer le pion de mon adversaire par le mien. On peut aussi enlever les besoins de la même façon avec les pouvoirs, mais aussi avec le fait qu'on puisse mettre une ville à côté d'une autre ville. Et quand on met une ville sur une tuile, ben la tuile ne peut plus combler les besoins d'une ville adjacente. Là, je ne sais pas si vous avez suivi ma petite logique ici. Là. Ben, l'exemple, c'est que, disons que il y a une ville déjà en jeu et je viens et autour de la ville, il y a un désert. Puis le désert, ça comble un des besoins de la ville. Ben moi, j'ai une ville qui peut vivre sur un désert. Fait que je mets ma ville sur le désert et je viens enlever le besoin comblé à la ville qui était juste à côté du désert. Et ben moi, ça se peut même que par mon jeu, éventuellement, je revienne voler cette ville-là. Il y a des sources de nourriture aussi. Ça, j'en ai parlé un petit peu. C'est des sources, ça, c'est des cartes, tu mets de la nourriture. Mais la nourriture, elle s'épuise à travers la partie. Donc ça, c'est très stratégique de calculer est-ce que ça vaut la peine que je comble le besoin parce qu'il faut que je gagne dans les quatre prochains tours. Mais ça se peut même que quelqu'un vienne poser une ville à côté puis là, il va manger ma nourriture. Et là, ça peut devenir compliqué. Ça traverse ça, ces espèces de ces effets de chevauchement entre les villes, entre les tuiles utilisées, que la stratégie du jeu va apparaître. Parce que il faut anticiper comment les autres joueurs peuvent venir freiner notre développement et comment on peut, nous, exploiter le développement des autres joueurs à notre propre avantage. Et c'est là toute la profondeur du jeu, malgré la simplicité des règles et des mécaniques du jeu. Je vous laisse réfléchir à ça ou peut-être aller chercher des images pour voir un peu de quoi je parle en écoutant Rebondir, qui met en vedette Fouki par le groupe OGB.
Put me down, put me down, put me down. Fuck it off, rebondir. J'ai pas passé mon mois, je l'ai raté. Tony est encore le président. Ça fait 3 ans que j'ai la majorité. Puis j'en dis, je pesais la gravité. Y'a du monde qui s'arrache quand une gang de réfugiés. Besoin sur mon éthérac, moi, est refusé. Y'a bien des choses qui c'est de me mettre à taille. Y'a femme, y'a fuck it, on va bonder. Me suis mis les pieds dans les plans. Y'a fuck it, on va bonder. Y'ont voulu nous lier les bras. Aïe, fuck it, on va bonder. Y'a tellement de choses qui tombent en rond dans ce monde. Tellement de tragédies, on a perdu le camp. C'était longtemps après chaque funérail. Put me down, yeah, fuck it, on va bonder. Même si tu m'aplatis, boy, on va rebondir. J'ai même plus d'appétit, fuck it, on va rebondir. Dans mon vase à pitié, les plus rebondissent. Jamais de pacotis, tout le stock 10 sur 10. Vince Carter, quand je rebondis contre le basket, même le con, il a compris, Frankie on top of his game. Gros bonnet gang, vous savez d'où on vient, Où est Montréal, métropolitain, boulanger, je fais mon propre pain. Aucun danger que je reste sur ma faim. Sur le plancher du début à la wouh. Me suis mis les pieds dans les plats, fuck it, on va bonder. Ils ont voulu nous lier les bras, fuck it, on va bonder. Y'a tellement de choses qui tombent en rond dans ce monde, tellement de tragédies. On a perdu le compte, c'est long dans après chaque funérail. Put me down, yeah, fuck it, on va bonder. Radley Bungie, sauf que t'en vas rebondir. C'est la route des longues jeans. Jump, jump, jump. Cours, cours, cours à la forêt. Tous les jours, je suis actif. Y'a mes boys connaissent. Jump, jump, jump pour la connex. Vas-y, fais de la place à la relève. Avec ma gang de rigolo. Oh non, on y va pas mal low. Oh my god, man, c'est trop chaud. Si on arrête, man, c'est trop tôt. Cuisine, la usine, la quoi? Je connais mon compte de banque comme je connais la carte. Y'a des patnés, j'en connais 5 ou 4. Mon réalité en de l'est. Me suis mis les pieds dans les plats. Fuck it, on va bonder. Y'ont voulu nous lier les bras.
Eh bien, c'était Rebondir sur l'album volume 1 de OGB. Et maintenant, c'est le temps de passer à la chronique préparée tout fraîchement pour nous aujourd'hui par Anne-Sophie. Eh bien, c'était notre petite introduction à Anne-Sophie. J'espère qu'elle m'en voudra pas trop de l'avoir utilisée, même si elle n'est pas parmi nous. Mais dans mon cœur, elle est toujours là. Aujourd'hui, Anne-Sophie nous amène à réfléchir à l'impact écologique des jeux de société, puisqu'après tout, les jeux de société, c'est du carton, du plastique, encore du carton, puis encore du plastique. Et justement, il y a beaucoup de facteurs à considérer si on a une conscience écologique, puis on veut pas avoir l'impact le plus terrible quand vient le temps d'acheter des jeux. Notamment la production délocalisée, parce que plusieurs des jeux de société sont fabriqués à l'étranger, en Asie spécialement. La Chine, c'est les principaux producteurs de jeux de société avec le reste de l'Asie. Et ça veut donc dire que le transport est considérable vers nos merveilleuses rives occidentales. D'ailleurs, certains éditeurs vont faire appel au financement participatif pour éponger les coûts d'une production locale. Bon, on va se le dire, les producteurs font toujours appel au financement participatif, mais il y en a, et ça, il faut les chercher, les voir, qui vont le faire de plus systématiquement pour pouvoir justement offrir un produit un peu plus consciencieux écologiquement. Donc, et ne vous trompez pas, hein, les acheteurs et les acheteuses sont au rendez-vous malgré les quelques dollars qui sont demandés en plus du prix courant. Parce que c'est pas tant que ça, finalement, la différence, là, souvent. Ensuite, il y a les déchets, hein, la masse de déchets qu'on va créer en achetant un jeu, en utilisant un jeu, puisque plusieurs aspects sont à considérer, comme l'emballage, hein, la présence de matériel recyclable, la durabilité, la réutilisation des éléments de jeu. Il y a certains jeux, là, une mode très récente là, qu'on appelle le Legacy, là, comme le fameux Pandémie Legacy saison 1 et maintenant saison 2, qui intègre une mécanique où la production de déchets est pratiquement inévitable, hein, puisque il y a des parties qu'on va détruire, on va déchirer des cartes, on va mettre des bouts de collants sur notre plateau de jeu, et même éventuellement, on peut plus vraiment jouer avec notre plateau de jeu. Donc c'est comme si on créait des déchets en jouant 12 parties seulement, puisque c'est à peu près la durée de vie de Pandémie. Bon, on peut jouer un peu plus que 12 parties, en fait, on pourrait jouer jusqu'à 36 parties, soyons honnêtes, mais c'est quand même pas tant que ça pour la quantité de déchets qu'on peut créer avec un seul jeu. Et bien sûr, la grosseur des boîtes. Ce à quoi il faut penser, c'est que les grosses boîtes signifient une meilleure visibilité souvent pour les distributeurs sur les tablettes des magasins. Donc, on a l'intention, tu sais, plus la boîte est grosse, plus le dessin est gros, plus on le voit sur les tablettes. Toutefois, certaines, en fait, souvent, ces boîtes-là sont remplies qu'à moitié. On comporte des rembourrages temporaires inutiles. Et bon, là, la plupart des producteurs, et ça, c'est pas Anne-Sophie qui le dit, là, mais moi, je sais que la plupart des producteurs font ça en disant, ben, comme ça, le jour où on va faire une extension, il va pouvoir rentrer l'extension dans la boîte principale du jeu pour pas avoir trois boîtes sur ses tablettes pour un simple jeu. Mais ça revient un peu au même, hein, dans cette discussion-là. Ça veut dire que vous allez faire une extension qui va avoir une boîte qui va être faite pour être jetée. Bon. Voilà. Cassé. Et donc, une grosse boîte inutilisée signifie aussi plus de transport, de déchets, si elle est rembourrée. Et même de déchets tout court, j'ai le goût de dire, hein, puisque ça prend plus de temps le jour où on veut justement avoir une extension, jeter plus de déchets. Donc, Anne-Sophie nous propose quelques petits trucs pour éviter trop de déchets. Quelques conseils. D'abord, on peut surveiller les principales certifications et attestations. NF Environnement, entre autres. Écolabel, Label Ludo. PEFC et FSC pour la gestion forestière. Ça, c'est-à-dire qu'ils font une gestion forestière écologique et cette gestion forestière va permettre d'avoir du papier plus écologique, si on veut. Il y a aussi des signes d'agriculture biologique pour des éléments textiles et le commerce équitable, parce que n'oublions pas, on parle de l'environnement, mais l'environnement, il y a aussi des humains dedans. Alors, ce serait bien de faire un commerce équitable pour la condition des travailleurs. On peut identifier aussi certains éditeurs de jeux éco-responsables. Je vous donne quelques exemples. Hopla, La Mèche Rebelle, Bioviva et Valorémy. Ou Valorémis, Valorémy. Ces quatre exemples-là font preuve d'une gestion éco-responsable de leur jeu de société. Donc, si vous êtes vraiment conscient de ça, ben et voulez réduire votre empreinte écologique le plus possible, ces quatre maisons d'édition-là, et il y en a d'autres, bien entendu, se démarquent. Il faut éviter aussi les jeux avec beaucoup de plastique. Bon, ça, des fois, on choisit pas, hein, on a le goût de jouer à un jeu, mais on peut regarder quand même, hein, le plastique. C'est pas nécessaire. Souvent, on peut utiliser du bois. Les meeples, c'est souvent fait en bois, pas nécessaire que ce soit fait en plastique. Alors, on essaie d'éviter le plastique. Ça diminue beaucoup les impacts environnementaux. éviter les jeux qui nécessitent des piles, hein, bien entendu. Les piles, c'est extrêmement polluant. N'achetez que des jeux dont vous êtes certain de conserver longtemps. Donc, ne faites pas une ludothèque juste pour faire une ludothèque. Là, les gens là, qui achètent des jeux, là, puis qui les entreposent, puis qui les ouvrent jamais, vous pouvez faire ça, vous pouvez, j'ai confiance en vous. Essayez des jeux en allant dans des commerces qui permettent d'essayer les jeux, comme le Randolph, le Colonel Moutarde, la Récréation, le Salon V, il y en a plein. Je vous invite à voir ça. Allez essayer le jeu. Je sais, ça va vous coûter 10$ essayer le jeu. Vous pouvez même aller à la boutique Randolph. Ils vont vous permettre de louer les jeux. Il y a plein de services de ludothèque aussi. Là, si vous allez Ludold aussi, permet la location de jeux pour éviter d'acheter un jeu qu'on se rend compte finalement, ouais, on l'aime pas. Puis après ça, faut le revendre. Ou il y a même des gens qui laissent juste prendre la poussière. Donc c'est ça, faut privilégier les ludothèques en partage et la mutualisation des jeux, autrement dit. Il y a quelques jeux écolos, hein, dans le dedans comme dans le dehors, que nous disons. La gamme de jeux Secoury, avec un Y, S-E-C-O-U-R-Y, des éditions Abeilles, créée en partenariat avec l'UNESCO et le ministère de l'écologie de la France. La mare aux grenouilles, de stratégie qui permet de découvrir la vie des batraciens et leur écosystème. Donc, on apprend, on joue, puis c'est écologique. Hey, c'est une bonne idée, ça. Ce jeu-là a été créé par l'agence, grâce à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et l'association Réserve naturelle de France. Donc, une grosse conscience écologique sur l'environnement. Et il y a le jeu « Il était une fois la forêt » aux éditions Hopla. C'est un jeu de plateau basé sur le film éponyme. Donc, ceux qui ont déjà vu « Il était une fois la forêt », ben, pourront reconnaître le jeu. Les enfants doivent y bâtir une forêt primaire la plus grande et la plus en santé possible. Alors, comment on fait ça, une forêt en santé? C'est « Il était une fois dans la forêt » qui vous le fera découvrir. Enfin, « L'arbre des quatre saisons » aux éditions Bio Viva. Je vais mettre sur le site web, dans le podcast de choc.ca, la référence pour avoir un peu plus d'informations, notamment une spécialiste en sciences et techniques du jeu, une médiatrice ludique, Virginie Tac, qui nous permet d'avoir beaucoup de ces informations-là. Et sur ce, l'amour est dans l'air. D'écouter de Love Without Reason du groupe Dreamwife sur leur album Dreamwife. Et maintenant, lançons-nous dans le droit. Le droit de l'environnement, c'est un droit assez particulier. Il y a un des aspects très sensibles, ça touche la division des compétences entre les provinces et le fédéral. L'environnement touche les deux, hein, bien entendu. C'est pour ça que c'est assez sensible. Et je me disais que c'était une bonne idée de parler de ça, non seulement parce que c'est l'été, mais parce qu'on vient un peu aux derniers épisodes de ceux qui les ont écoutés, de parler de cette espèce de division. On a parlé à travers plusieurs des épisodes, là, les compétences fédérales, les compétences provinciales et tout ça. Et au dernier épisode, où est-ce qu'on parlait de la Constitution, ben justement, on l'a abordé un peu plus qu'avant. Et ce qui fait que l'environnement, la place actuelle de l'environnement dans notre société, il a pris une réelle importance là, seulement à partir du début des années 60 par la publication des ouvrages comme Le printemps silencieux de Rachel Carson. Le droit de l'environnement, c'est une matière vaste, diffuse, que les deux ordres de gouvernement peuvent adopter, dans lequel les deux ordres de gouvernement peuvent adopter des lois à partir de leurs compétences respectives, créant ainsi des situations de chevauchement. Hein, il y a des possibilités de conflit entre les lois. Bon, c'est correct, on vous a entendu. La raison pourquoi il y a cette espèce de chevauchement, c'est que l'environnement, c'est quelque chose qui touche le pays au complet. C'est d'intérêt national. Mais c'est surtout quelque chose qui touche les matières premières, les ressources naturelles. Or, les ressources naturelles, c'est de compétences provinciales. Mais l'intérêt national, c'est de compétences fédérales. Alors, il y a vraiment un conflit là, évident. Et ben, d'ailleurs, on l'a entendu encore ce printemps là, à propos des pipelines puis tout ça. Ben, c'est un conflit qui va toujours rester, puisque quand on a créé la Constitution, ben, l'environnement, c'était pas du tout un problème. Donc, les fondateurs de la Constitution n'ont jamais pensé à dire l'environnement, comme la conscience écologique, c'est quel palier gouvernemental qui devrait s'en inquiéter. Et bien sûr, tous les parlements veulent gérer leurs affaires comme ils le veulent. Alors, ça crée des conflits. Quand on approche un problème, quand il y a un conflit entre deux lois environnementales, on va regarder trois aspects. D'abord, on va regarder la validité des lois. Une loi est valide lorsque son caractère véritable peut être attaché aux compétences du Parlement qui l'a adoptée. Je reviens aux idées de compétences. Donc, un Parlement provincial a tout à fait le droit de dire comment on va utiliser les ressources naturelles sur son territoire. Hein, bien entendu. On pourrait dire aussi que le gouvernement fédéral a tout à fait le droit de gérer les ressources comme les voies maritimes, puisque ça, dans la Constitution, ça a été donné au fédéral, même si c'est sur des terrains provinciaux, ce qui fait que les ponts, ce sont des propriétés fédérales, d'ailleurs. Les ports, ce sont des institutions fédérales. Les cours d'eau, hein, ce sont c'est pas n'importe quel cours d'eau, mais les cours d'eau qui sont navigables. Des normes valides peuvent produire des effets accessoires sur des matières relevant de l'autre ordre de gouvernement. Et là, vous commencez à me voir venir avec mon idée de port, hein, puisque les ports sont dans les villes qui sont dans les provinces et ainsi de suite. Ça peut avoir des effets accessoires sur l'autre ordre de gouvernement, puisqu'il est impossible d'opérer une démarcation étanche des compétences, comme j'essaie de le faire comprendre. Et bien sûr, l'environnement, s'il y a quelque chose de peu étanche, c'est ça. L'environnement, c'est partout, il n'y a pas de frontières dans l'environnement. Et ça touche beaucoup de doubles aspects, comme on dit. Ensuite, on va regarder l'applicabilité des lois, c'est-à-dire vérifier si la norme entrave le contenu essentiel, le cœur de la compétence de l'autre ordre de gouvernement. Là, pour ainsi dire, est-ce que la loi provinciale empêche toute construction sur une voie navigable? Parce que c'est pas supposé d'être le provincial qui gère ça. Inversement, est-ce que le fédéral est en train de dire comment gérer les ressources naturelles aux provinces? Parce que c'est pas sa compétence au fédéral, c'est la compétence des provinces. Elle va demeurer valide, hein, soit dit en passant, une loi complète, là, parce qu'une loi, c'est jamais un article qui dit « on fait ça ». Ça va être une centaine d'articles qui va décrire toute chose et ils vont la décomposer, c'est-à-dire qu'elle va demeurer valide, mais il va être inapplicable aux choses, personnes ou activités relevant de l'autre ordre de gouvernement. Par exemple, le Québec déciderait « on ne fait plus de ponts », ben c'est bon, mais sauf sur les voies navigables, parce que ça, c'est une affaire qui appartient au fédéral. Est-ce qu'on me suit? Donc, la loi deviendra privée en partie de ses effets juridiques. Et ensuite, on va regarder l'opérabilité de la norme, ce qui va amener à l'application potentielle de la doctrine de la prépondérance fédérale. Donc, l'applicabilité, c'est que toutes deux peuvent être valides, applicables, et ce qui va faire que ça entraîne l'inopérabilité de la norme provinciale au profit de la seule application de la norme fédérale. Donc, ce que ça veut dire, là, je ne sais pas si vous m'avez suivi, parce que moi-même, j'ai peut-être un peu de misère à me suivre. Ce que ça veut dire, tout ça, c'est que, disons qu'il y a des parties d'une loi qui ne sont pas opérables, qui ne fonctionnent pas dans l'opérabilité, dans la mise en situation, dans le fait d'appliquer une loi, parce qu'elle contrevient à une autre loi, donc il y a une vraie contradiction, ben c'est le fédéral qui gagne tout le temps. Il y a deux types de conflits, justement, ça va nous aider peut-être à comprendre. Le conflit d'application, donc, où l'observance d'une norme mène à l'inobservance de l'autre. Bon, il y a une loi qui dit « tu peux faire ça », puis l'autre loi qui dit « tu peux pas faire ça », ben il y a vraiment un conflit direct, là. C'est oui, non, c'est simple comme ça. Il y a le conflit d'intention, où la norme provinciale entrave la réalisation de l'objet de la norme fédérale. Et l'intérêt national, ça peut être ça, l'objet, là. Tu sais, on veut être sûr que l'économie nationale prospère, mais s'il y a une loi provinciale qui interdit d'exploiter des ressources naturelles, ça se pourrait que le fédéral dise « ouais, mais pas tout à fait, tu sais. Faut que vous émettiez des permis pareils parce que on veut quand même que notre économie perdure. » Donc, je sais pas si c'est un peu plus clair. Et les effets de la norme provinciale vont être suspendus souvent, hein, pour que le provincial puisse venir la modifier pour pas trop entraver l'objet de la norme fédérale. C'est juste dans la norme du conflit, donc tant qu'il y a un conflit, dans la durée du conflit, si le conflit est changé, justement, si la loi est changée, ben d'un côté comme de l'autre, ben la norme provinciale pourrait reprendre effet. On va prendre un exemple ici d'une petite cause qui a eu lieu à Québec. C'était le procureur général du Québec qui était contre IMTT Québec, qui est une compagnie. Ça a été rendu, cette cause-là, le 8 septembre 2016 à la Cour supérieure du Québec. C'était l'application de la loi québécoise sur la qualité de l'environnement, qu'on va appeler LQE, à une entreprise dont les installations sont situées sur les terrains du port du Québec. On se souvient, port, c'est compétence fédérale. Même si c'est au Québec, même si on dit port de Québec, c'est une compétence fédérale, les ports, les voies maritimes. Et donc, IMTT, c'est une société privée qui loue à l'administration portuaire de Québec des terrains sur lesquels elle exploite des terminaux d'entreposage. Autrement dit, elle a des cylindres, des entrepôts, puis des trucs comme ça. Et depuis les années 70, il y a eu plusieurs certificats qui ont été d'autorisation, qui ont été délivrés à IMTT en vertu de cette fameuse LQE, la loi sur la qualité de l'environnement. En 2006, par contre, IMTT s'est uniquement adressé au gouvernement fédéral. Et là, l'APQ, l'Administration portuaire de Québec, et l'IMTT, quand se sont fait attaquer, puisque Québec s'est dit « ben là, ça marche pas, on a toujours émis des permis, là, on veut pas que vous fassiez ça, vous nous avez même pas demandé, en fait, donc ça se passera pas comme ça ». Donc, l'Administration portuaire et IMTT ont plaidé que la loi LQE est inopérante en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale. Et c'est ce que la Cour a fini par reconnaître. Pour l'instant, puisqu'on est seulement à la Cour supérieure, ça pourrait monter plus haut dans les échelons de la Cour. La Cour a déterminé qu'il n'y avait pas de problème de validité. Donc, les deux lois sont valides. Il n'y a pas de choses qui pourraient rendre invalides les lois. Le différend sur l'applicabilité aussi est rejeté parce que le juge s'appuie sur une absence de jurisprudence. Je n'irai pas dans les détails. C'est un truc de juge. Et c'est au niveau, de toute façon, de l'opérabilité que le juge va trancher, c'est-à-dire qu'il va dire qu'il y a un conflit d'application en raison d'un potentiel refus provincial d'autoriser la construction des réservoirs, ce qui rendrait impossible la conformité aux deux régimes du fait qu'ils sont déjà construits. Oui, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux. La présence d'un conflit d'intention aussi, puisqu'en adoptant ces normes, loi maritime du Canada, qui constitue un code complet, le Parlement fédéral a exprimé clairement son intention de se réserver le dernier mot en cas de conflit et de désaccord à l'égard de tout ce qui peut se rapporter à ces installations portuaires au pays. Il y a plusieurs questionnements légitimes. Je ne sais pas si vous avez suivi le chevauchement, puis le raisonnement un peu là, du juge qui dit que ça peut pas, il y a un problème d'implicabilité parce que les entrepôts sont déjà construites, donc si on disait non, là, il pourrait pas les... En tout cas, c'est compliqué. Puis l'intention, puisque apparemment, le fédéral se réserve le droit, ça c'était un truc de la prépondérance, justement, mais pour de vrai, il n'y a pas un vrai conflit d'application, puisque les dédoublements de normes sans semblable, ça ne constitue pas en soi un conflit. Hein. Le Québec ne dit pas « non, il n'y aura pas d'entrepôt ». Il dit seulement « c'est nous qui délivrons les permis ». On veut avoir ce mot-là. Et le conflit d'intention, ben justement, il n'y a pas eu de manifestation expresse d'intention d'exclure l'intervention provinciale. Et ça, c'est très important dans ce genre de dossier-là. Hein. Ça ne peut pas être on ne peut pas déduire l'intention du Parlement. C'était Valérie Vong sur l'album Valérie Vong. Et la chanson, c'était « Toi plus moi égale ». Je vais déduire que c'est « Cœur avec une couronne ». Parce que c'est un petit code qui ressemble à un smiley cœur X. J'espère que vous avez vu un peu le lien que j'ai fait avec le droit. C'est-à-dire entre le jeu et le droit, hein, on l'a vu, quand on se penche sur des questions de droit, il y a une démarche à suivre. Et c'est la même chose dans les jeux. Hein, faut passer dans la loi à travers les trois critères. Pardon, pour évaluer les lois, la validité, l'applicabilité, l'opérabilité. Dans Gaïa, c'est la même chose. Hein? Quand on veut mettre une ville, est-ce que la ville correspond aux prérequis de la ville? Est-ce que l'emplacement est valide? Ensuite, on regarde si des besoins sont comblés par les tuiles autour de la ville. Est-ce que l'environnement dans lequel je place ma ville va permettre l'application de l'objectif du jeu, placer un pion? Et enfin, est-ce qu'en plaçant ma ville à cet endroit, j'ai un impact sur les autres villes déjà en jeu? Et comment cet impact se traduit? Un pion immédiatement? Est-ce que j'enlève un pion immédiatement ou non? Un peu plus tard, est-ce que graduellement je vais enlever la nourriture? Ce qui nous fait penser aussi au chevauchement, parce que dans le cas du droit canadien, il y a une doctrine de prépondérance fédérale, contrairement à dans Gaïa, où c'est le dernier effet qui domine. Mais il faut dire que ce serait un peu le chaos si c'était tout le temps le dernier effet qui dominait aussi dans les parlements, parce que ce serait pas très viable. Hein? Ça ferait que chaque palier du gouvernement ferait une nouvelle loi qui aurait un peu d'effet, mais pas tant que ça, puisqu'il y aurait une nouvelle loi qui viendrait la remplacer, puis là, ça ferait juste une guerre de lois sans fin. Il nous reste quelques minutes pour vous parler de ma critique du jeu, de mes impressions sur ce jeu-là, d'abord sur les composantes. Hein. C'est un jeu de qualité, c'est un jeu qui dure, justement, hein, écologiquement parlant, c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup de plastique, en fait, il n'y en a pas vraiment, peut-être dans les cartes un peu, ça, c'est la chose qu'on ne sait jamais, parce que les bonnes cartes, souvent, il y a une petite film de plastique, mais les tuiles sont de carton de façon épaisse, sont faites épaisses. On a droit à des meeples en bonne et due forme, c'est-à-dire des pions qui sont de bois, mais qui ne sont pas de simples cubes de bois sans vie. Et les dessins sont simples, mais assez jolis, avec des petits clins d'œil humoristiques. C'est très apprécié. Par exemple, dans les cases océans, il y a une petite île avec une sirène dessus ou un monstre genre Loch Ness dans les marais. Les règles, les mécaniques sont assez simples, comme je l'ai dit, et les règles s'expliquent assez rapidement. Et malgré ça, il y a quand même un bon niveau de stratégie et plusieurs façons d'approcher le développement de sa population et l'utilisation des cartes. Mais ça reste assez simple et je suis pas sûr que toutes les stratégies sont bonnes en fin de compte. J'ai l'impression qu'il y a certains aspects qui causent un débalancement dans la stratégie, notamment les pouvoirs là, qui peuvent vraiment prendre beaucoup de place quand on joue avec eux et qui fait en sorte qu'une stratégie peut dominer les autres. Ce qui est bien dans le jeu, c'est sa durée. Ça dure 30 minutes et en 30 minutes, on a réussi à faire une partie complète et donc, on peut en faire quelques-unes sans problème, ce qui est un avantage quand on le montre pour la première fois à des joueurs, hein, puisque comme ça, ça permet aux nouveaux joueurs de comprendre les règles puis de tenter une stratégie. Enfin, ça fait un bon gateway game, comme on dit, un bon premier jeu pour les non-joueurs. Yaya, c'est un jeu chouette, avec assez agréable pour faire des petites parties, mais ça peut devenir redondant si on y joue trop, là. Donc, c'est très bien, mais à petite dose. Eh bien, c'était tout pour moi aujourd'hui. On se revoit, on se